Abraham, nous le savons, est un homme de foi remarquable, nommé dans l'Épître aux Romains le père de tous ceux qui croient. On peut trouver bizarre que se trouve retenue dans les passages qui étaient élus une défaillance d'Abraham. D'abord, c'est au début de l'histoire d'Abraham. La véritable relation d'Abraham avec Dieu commence au chapitre 12, il y a l'appel de Dieu. Abraham répond à cet appel, s'engage avec Dieu dans un chemin, jusqu'à dresser un autel d'ailleurs, et puis survient une circonstance difficile, une famine. Pas de quoi manger où se trouve Abraham, mais tout ce qu'il faut très largement en Égypte. Et Abraham s'en va en Égypte. Et là, il a peur. Quand on est dans le lieu où Dieu nous veut, on est en sécurité. Quand on n'est pas dans le lieu où Dieu nous veut, on ne sent pas cette garde divine, cette protection forte. Et Abraham a peur. Alors, comme Saraï, son épouse, est en fait une demi-sœur, fille de son père, mais pas de sa mère, eh bien, il lui dit, eh bien, tu diras que tu es ma sœur. Et ce que nous avons lu montre le comportement du Pharaon. Alors, que fait Dieu? Comment Abraham, cet homme qui s'est engagé avec Dieu, va être un témoin dans cette circonstance-là, qui est regrettable? Eh bien, Dieu lui-même va prendre les choses en main à cause du cœur d'Abraham. Donc, même dans une période délicate, dans une défaillance, Dieu lui-même intervient pour que les siens soient des témoins, à condition, bien entendu, que notre cœur soit fermement engagé avec Dieu, c'était le cas d'Abraham. Et comment fait-il? Eh bien, il fait venir tout un tas de plaies. Et le pharaon s'interroge et se dit, mais d'où est-ce que ça vient? Et réalise finalement que ça vient d'Abraham. Il apprend que Saraï est sa femme. Et alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc Abraham ici est défaillant. Mais Dieu intervient pour qu'il reste un témoin. La circonstance suivante, avec Abimélec, on saute un certain nombre de choses là, nous montre Abraham dans une situation semblable. Et alors on peut se dire, mais c'est fini pour Abraham, parce qu'il recommence encore. Non, Abraham, de nouveau a peur, il a besoin d'être soutenu, et Dieu encore va s'occuper de lui. Vous voyez, c'est ici un encouragement qu'on trouve si on a faibli une fois, si on faiblit une autre fois, mais si vraiment on est au Seigneur, si vraiment on est enfant de Dieu, eh bien Dieu va intervenir, et Dieu intervient effectivement. Et parce que Dieu intervient, Abraham reste un témoin et même a de l'autorité. Ça, c'est important. Si nous n'avons pas la conviction en nous d'appartenir véritablement à Dieu, si nous ne vivons pas cette vie de relation avec Dieu, nous ne pouvons pas connaître ce recours-là. Si nous le vivons, Dieu le sait. Et Dieu intervient quand il y a des défaillances. Et qu'est-il dit à Abimélec? Eh bien, il lui a dit, « Rends la femme de cet homme. » Dieu lui a, par un songe, apporté une explication à ses problèmes. Maintenant, « Rends la femme de cet homme. » Il est prophète, il priera pour toi. Voilà un rôle d'Abraham. Et Abraham, effectivement, reçoit sa femme, prie, Dieu le secourt, et Abimélec est délivré. Donc on retient ici qu'il faut une vraie relation avec Dieu, une vie avec Dieu, connaître le Seigneur Jésus pour son Sauveur, et vivre cette vie avec lui, une vie de communion, une vie habituelle, tous les jours avec le Seigneur. Et si viennent quelques défaillances, eh bien Dieu nous aidera, il veut que nous soyons des témoins, et nous pourrons produire quelque chose parce que Dieu lui-même interviendra.
Dieu est le Dieu d'Abraham. L'expression est dans la parole de Dieu. Et il est même dit en hébreu, au chapitre 11, que Dieu n'a pas... Je l'ai arrêté. Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham. Et il n'a pas honte d'être appelé le Dieu. Alors qui est-il croyant ? Il y a dans sa personne un rayonnement extraordinaire. Et c'est vrai qu'on nous a lu trois passages le concernant, c'est un peu comme trois photographies. C'est quand même un peu juste quelquefois de raconter la vie d'un homme important avec les trois photos qui, au moins pour la première et la seconde, soulignent un peu les rides. Je vous propose trois autres et que nous allons prendre dans le Nouveau Testament. Le premier, et cela nous donnera l'appréciation que Dieu lui-même donne, le premier acte, dans la bouche d'Étienne. Alors, c'est dans les actes... Au chapitre 7. Écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ait 20 ans. Il lui dit, sors ton pays de ta parente, viens au pays que je montrerai. Le Dieu de gloire parlait à Abraham. Est-ce qu'on peut... être un témoin dans ce monde, est-ce qu'on peut avoir une vie percutante comme celle d'Abraham si on n'a pas rencontré le Dieu de gloire? Notre christianisme est souvent fait des difficultés quotidiennes, mais le point de départ de notre vie avec Dieu. Avons-nous rencontré personnellement Jésus-Christ comme le Sauveur qui vient régler la question de nos péchés? Mais un Dieu qui est puissant, qui est grand, qui est un Dieu de grâce, qui est un Dieu merveilleux, qui est un Dieu. Ce qui fera la qualité du témoignage d'Abraham et ce qui est indispensable pour lui, c'est ce pacte avec un Dieu de gloire. Une photo, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre. Romains 4, verset 4. Abraham crut Dieu, et cela lui fut à justice. Verset 23. Ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit cela, que cela lui a été compté à justice, mais aussi. Abraham est un témoin aussi pour nous. Et il est témoin en quoi dans ça ? Quoi d'Abraham l'engager ? Il a laissé Ur. Et le culte de Nanar, pour aller vers un Dieu qui lui avait parlé, qu'il connaissait peu, mais il s'est mis debout. L'histoire a été longue, ça c'est sûr. Mais quand Dieu lui a parlé ensuite en Canaan, et Dieu le déclare juste, c'est ça justifié. La foi d'Abraham, ce n'était pas un « je pense que Dieu est puissant ». Mais c'était une foi, elle est décrite dans ce chapitre 4 de l'Épître aux Romains, verset 17, « Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Et c'est dans la mesure où notre foi est accrochée à un Dieu vivant qu'elle est une foi réelle. Qu'elle est une foi qui montre aux autres que nous sommes justifiés par la foi. Abraham a eu cette qualité de foi et son témoignage est venu jusqu'à nous. Et puis alors j'arrive à la troisième photo et là elle a pour moi un intérêt particulier parce que il est dit dans le passage que Abraham montre quelque chose. On veut être des témoins, il faut quand même montrer quelque chose. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Alors, Hébreux 11, il y a d'abord le verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller. Au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, il s'en alla, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme une terre étrangère. La foi se prouve par des actes. Là, il a fallu d'abord se lever et marcher, et ça se voyait. Et on insiste souvent sur cet acte. J'aimerais à l'instant insister un peu plus sur le second. Rester dans la terre de la promesse. Ça, ça n'a pas duré un jour. Entre Abraham qui part 75 ans et Isaac qui arrive, il s'est passé 25 ans. 25 ans à rester dans le même pays comme un étranger. Ça donne un peu la mesure de notre témoignage chrétien. C'est pas uniquement des actes qui se remarquent certains jours. Avoir un témoignage, c'est rester fidèle jour après jour pendant des années et souvent dans la même ville, le même pays pour Abraham. Et c'est la régularité de notre conviction qui va être un témoignage, beaucoup plus que des actes d'éclat auxquels nous rêvons quelquefois. Être fidèle jour après jour, même si les jours nous paraissent monotones, la foi est là pour nous encourager chaque jour. Et Abraham a été témoin de cette façon-là. Et c'est ce que fait ressortir la suite du passage, verset 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Confesser, dire publiquement, je suis un étranger. Et c'est sûr, ma patrie est dans le ciel. Peut-être que j'ai deux passeports, un français et puis un du ciel. Mais comment pouvons-nous dire cela? C'est pas tellement en faisant un défilé pour le crier dans la rue, mais c'est en le vivant. Vous savez où est le seul passage dans la vie d'Abraham où il peut dire qu'il est un étranger? Cherchons-le. Alors, personne ne remue sa Bible? C'est Genèse 23. Genèse 23, verset 3. Abraham se leva de devant son mort et parla au fils de Heth, disant, « Je suis un étranger, habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre parmi vous, et j'enterrerai mon mort devant moi. » Et les fils de Heth répondirent à Abraham, lui disant, « Écoute-moi, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Est-ce qu'Abraham, ce jour-là, est triomphant sur un piédestal? Abraham est avec son mort, son épouse bien-aimée. Et il ne sait même pas où l'enterrer. Jour de difficulté, de tristesse profonde, d'infirmité. Il ne sait pas, il ne peut rien faire tout seul. Et il donne ce témoignage d'être un étranger, d'être d'ailleurs, d'être du ciel. Et c'est là qu'on lui répond, tu es un prince de Dieu. Nous voyons dans la qualité de ta vie que tu appartiens à quelqu'un qui est merveilleux. Et que tu es un homme noble, un prince, un homme fidèle, comme doit l'être un prince, un homme qui peut exprimer les qualités de la maison paternelle, les qualités de son Dieu. Alors, frères et sœurs, comment témoigner? Abraham est là, la photo est saisissante, me semble-t-il. Il est dans la main de Dieu, au travers de ses limites personnelles, dans les circonstances du jour. Et la gloire de Dieu éclate par cet homme qui est déclaré un prince. Que notre Dieu nous encourage à ne pas rêver de grandes occasions de témoignage, mais à être dans la main de Dieu, au travers de nos limites, comme Abraham ce jour-là. Et nous pourrons alors montrer, par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces, nous pourrons montrer que nous avons rencontré le Dieu de gloire, celui qui est venu dans nos vies, pour que nous soyons ses témoins à sa gloire.
J'aurais aimé qu'on revienne sur la notion de peur et de témoigner, parce que j'ai cru comprendre que Jacques a dit que Abraham avait eu peur et c'est pour ça qu'il a mal témoigné. Et il ne faudrait pas croire que le chrétien quand on était dans là où Dieu nous voulait, qu'on avait cette certitude et cette assurance. Oui, c'est vrai, mais il ne faudrait pas croire que le chrétien qui est là où Dieu le veut n'a pas peur. On a peur de témoigner. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette question. Et on a peur, mais on choisit la voie de Dieu et de faire confiance à Dieu et de témoigner. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus?
Je veux pas prendre trop de place, hein, mais pour signaler que ce que tu viens de nous faire remarquer est tout à fait dans le sens de l'Écriture, un autre exemple que celui d'Abraham, c'est celui de Néhémie au chapitre 2. Néhémie chapitre 2, cet homme est en train de servir le vin au roi, et il suffit d'avoir un visage triste pour être condamné à mort. Et voilà que le roi lui dit, Néhémie 2:2, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi pourtant tu n'es pas malade? Cela n'est rien que de la tristesse de cœur. Alors j'eus extrêmement peur. On est dans le sujet. Et je dis au roi, que le roi vive, etc. Et un peu plus loin, le roi me dit, que demandes-tu? Et je priai le Dieu des cieux et je dis au roi. Peut avoir un excellent témoignage en étant, comment il faut dire, tordu, moulu, pétri de frayeur. Mais Dieu est là pour nous tenir au milieu de cette peur, pour que les mots, pour que l'attitude, même au travers de nos tremblements peut-être, ou de la couleur de notre visage qui devient écarlate, hein, pour que dans ces conditions-là, il y ait quand même un heureux témoignage pour le bien de plusieurs, et ça a été vraiment le cas ici.
Je ne sais pas si le problème se pose pour nous en termes de peur, à l'heure actuelle ou d'autres. Et je voudrais vous laisser deux passages à ce sujet, l'un dans l'évangile de Marc, chapitre, et tout à fait à la fin, au verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et puis l'autre passage qui est bien connu aussi, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er et au verset 16. Où nous lisons, car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Je ne pense pas que nous sommes dans un monde où, si nous prêchons l'Évangile, on va nous lancer des pierres. Je ne crois pas. Par contre, on peut endurer des moqueries, la dérision. Comment se fait-il? Vous croyez encore à ces choses? Vous en êtes resté encore à ce point primaire? Alors, vous n'êtes pas très intelligent, vous n'êtes pas très évolué, vous n'avez pas beaucoup de culture. Vous croyez encore à ces récits. Alors, c'est la difficulté à témoigner dans ce monde, on va dire, post-chrétien. Dans l'Occident, je parle de l'Occident dit chrétien dans nos pays. Ce n'est pas tant la peur, je pense, mais c'est la crainte et la honte. Une autre pensée que je voulais dire à propos de l'exemple d'Abraham, c'est que Abraham a pu témoigner presque à son corps défendant dans deux circonstances où il n'a pas été tellement à la hauteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je pensais à la présentation qui nous a été faite tout à l'heure, et qui est très juste, et à laquelle je ne vais pas du tout m'inscrire en faux, à savoir que notre comportement en tant que chrétien doit bien sûr précéder nos paroles et notre enseignement. Si ce que nous disons va à l'encontre de ce que nous faisons, où est notre témoignage? Et dans Abraham, eh bien, nous avons quand même cet exemple, où il a pu témoigner. Il est un prophète, malgré tout, c'est dit, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Il est un prophète, malgré ses défaillances. Alors, je pense que je ne veux pas du tout amoindrir ni retirer ce qui vient d'être dit dans la présentation, mais peut-être pas placer la barre trop haut, nous sommes ce que nous sommes. Bien sûr que nous devons être lisibles en tant que chrétiens. Notre comportement, nos paroles doivent être à la hauteur de ce que nous pouvons enseigner. Mais sachons que malgré tout, et malgré nos défaillances, nos limites, nos faiblesses, nos manquements, Dieu se sert de nous quand même pour être des témoins pour la gloire de son nom. Et c'est une pensée, je crois, qui peut nous encourager.
Des exemples pratiques, beaucoup sans doute ici en ont connu. On se trouve dans la société occupant des postes divers, des fonctions diverses, avec en général, personne ici n'est chef de l'État, hein, des personnes au-dessus de nous. Et ces personnes au-dessus de nous, dans la société aujourd'hui, tiennent à leur gloire, à leur position. Et effectivement, il peut y avoir de la crainte. Il y a aussi des personnes au-dessus de nous qui exercent des pressions. Et alors, c'est difficile, vraiment, d'être chrétien, de tenir à la vérité. Je connais quelqu'un qui vit encore d'ailleurs, un vrai chrétien, à qui on a proposé quelque chose alors qu'il n'avait plus rien, presque plus rien à manger. On lui propose un travail tout à fait intéressant. Il commence le travail, mais ce travail allait avec des mensonges, des choses fausses. Et il allait gagner de l'argent en racontant des choses qui ne sont pas vraies et en trompant les gens. Eh bien, c'était un témoin. Il a dit, je regrette, je ne peux pas continuer ce travail ou vous ne pouvez pas m'empêcher de dire la vérité. Et il a cessé d'avoir ce travail-là. Dieu s'est occupé de lui d'une autre manière. Mais voilà des moments difficiles où il peut y avoir tout un tas de raisons légitimes, comme Abraham quand il est parti en Égypte. Ben, il avait faim. Hein? Il est parti en Égypte parce que ça correspondait pour lui à quelque chose de nécessaire. Même chose au début du livre de Ruth. On trouve un homme qui s'en va et qui entraîne sa famille. Voilà. Donc, cette crainte peut être légitime. Il y a autre chose encore comme encouragement. On le trouve dans le chapitre 21 du livre de la Genèse, et puis peut-être après on passera à Josaphat. Nous l'avons lu tout à l'heure, cette expression du verset 22, « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais ». Vouloir cheminer tous les jours, marcher tous les jours avec le Seigneur Jésus. Dans les moments difficiles, attendre de lui le secours et recevoir ce secours qu'il s'est toujours amené au bon moment. Et ça, ça se voit. Et c'est Dieu qui parle haut à travers ce qu'il donne aux siens. Et ici, le constat est fait. Dieu est avec toi, comme tout à l'heure, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ici, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Et voilà, Abraham ayant de nouveau de l'autorité à cause de son témoignage, et il y avait une nécessité pour le peuple, et on venait de prendre de force une source d'eau, et Abraham met les choses en ordre, il a de l'autorité. Donc pensons-y, vivre avec le Seigneur, dans les moments difficiles, recevoir ce que Dieu donne, et c'est Dieu lui-même qui donne cette lecture. Les autres le voient. Dieu est avec lui. Le Seigneur est avec lui. Et ça, C'est un puissant témoignage. Et voilà, une source d'encouragement. Vivons avec le Seigneur dans les moments difficiles. On lui parle, on attend de lui. La réponse vient. Bon, il y en a qui l'ont connu ici. Je vois quelqu'un qui a connu une période difficile dans sa vie, qui a attendu véritablement du Seigneur. Et maintenant, les choses vont bien, mais il faut quelquefois attendre assez longtemps. C'est l'exercice de la foi. Mais voilà. Ensuite, on est témoin. Et quand on a vécu des choses comme ça avec le Seigneur, quand on a eu un secours divin, et que Dieu nous en donne conscience, que le Seigneur nous montre, nous place en nous cette assurance que c'est lui qui l'a fait, eh bien, on devient plus fort dans le témoignage. Je vais lire quelque chose qui se trouve dans le livre des Actes. Premier épître à Timothée, excusez-moi, chapitre 3, verset 13. « Ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. » Commencer, vivre une épreuve, attendre le secours divin, recevoir ce secours divin et Dieu montre qu'il est avec nous, voilà qui donne de la hardiesse et de l'assurance pour marcher dans un témoignage plus fort ensuite. Alors voilà une autre circonstance avec Josaphat. Voilà, un roi de Juda, un roi qui est pieux, Dieu nous dit du bien de lui, l'Éternel était avec lui, il marchait dans les premières voies de David, son père, il recherchait le Dieu de son père, il marchait dans ce qu'il connaissait de lui, dans ses commandements, et c'était quelqu'un d'exemplaire, il était attaché à Dieu. Et puis il y avait un autre roi, un roi impie, Achab. Il était pourtant au milieu du peuple de Dieu, d'une partie du peuple de Dieu, et ce roi-là avait un tout autre comportement. La parole de Dieu nous en parle, c'est un roi qui a fait des choses très, très difficiles, tout à fait inadmissibles, et Dieu nous dit qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Pour avoir commis de telles choses, il nous dit même qu'il était aidé par quelqu'un, c'est sa femme qui l'y poussait. Bon, on peut voir en passant qu'on a besoin d'être deux dans un foyer, deux attachés aux choses de Dieu, pour pouvoir être des témoins. On voit un petit côté de la cellule familiale. Bon. Achab invite Josaphat. Et Josaphat y va, voilà, des relations officielles à un certain rang. Josaphat y va. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Achab lui fait une proposition. « Viendras-tu avec moi à Ramoth de Galaad ?» Et il lui dit, « Moi, je suis comme toi, et mon peuple comme ton peuple, et je serai avec toi dans la guerre. » Un roi pieux, un roi qui méprise Dieu. Et il dit, « Je suis comme toi. » Un peuple sur lequel l'Éternel a de l'influence, et un autre peuple, puisque le peuple de Dieu était divisé, qui refuse les choses de Dieu et qui s'en va vers l'idolâtrie, et il dit, « Ton peuple est comme mon peuple. » Voilà, une relation officielle, une invitation qui peut-être va lui donner une certaine place. Et il s'identifie à ce que Dieu réprouve. Ici, Josaphat n'est pas un témoin. Et Dieu ne va pas l'oublier pour autant. On a lu le récit où ils s'en vont tous les deux à la guerre. Effectivement, il y monte à Ramoth de Galaad. Et puis l'autre roi se déguise, Achab, pas lui. Mais vient le moment difficile et il crie à Dieu. Et Dieu le délivre. Mais Josaphat doit entendre ensuite, début du chapitre 19, Aides-tu aux méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? Voilà, on y revient. Aimer Dieu véritablement, être séparé de tout ce que Dieu dénonce, ne pas s'identifier avec ceux qui rejettent Dieu. Voilà, quelque chose qui est utile, quelque chose qu'il faut comprendre si nous voulons véritablement être des témoins, même si nous pouvons avoir quelque avantage à être connus dans des relations officielles avec des incrédules notoires. Eh bien, ne cherchons pas à manifester des liens dans ces cas-là, mais soyons véritablement séparés comme chrétiens n'entrant pas dans les choses que Dieu condamne. Là, c'est quelque chose d'important à saisir et que nous pouvons avoir à tous les niveaux dans la société.
Puis-je me permettre de raconter deux témoignages en rapport avec ce qui vient d'être dit et ce passage de 2 Corinthiens 6 que nous connaissons bien, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules » 2 Corinthiens 6, 14. Donc deux histoires très différentes. La première, c'est celle d'un commercial qui devait faire un stage en région parisienne avec des collègues sur un plan strictement professionnel. Le stage s'est bien déroulé et à la fin de ce stage, à la fin de la semaine, eh bien, les quelques stagiaires ont décidé de fêter l'événement de la fin du stage. Et le programme prévoyait d'aller, donc ça se passait à Paris, dans certains lieux, boîtes de nuit, je ne sais trop quoi. Et ce stagiaire chrétien a dit à ses collègues, « Eh bien, écoutez, chers amis, nous avons passé de bons moments ensemble, mais sachez une chose, c'est que je suis chrétien et je ne viendrai pas avec vous pour cette raison, pour une raison de morale, une raison d'éthique. Je ne veux pas aller dans ces lieux-là. » Alors, il y a eu un petit froid, et puis bon, les autres sont partis. Et puis, il y en a un qui est resté, un de ceux qui devait aller passer cette soirée. Et il s'est approché du chrétien, il lui a dit, bah, « Tu sais, tu étais très courageux de dire ce que tu as dit. » Et ça m'a bouleversé, parce que moi, j'ai une mère chrétienne qui prie pour moi, je le sais. Et j'ai me suis détourné du chemin du Seigneur. Mais par ton témoignage, tu viens de me rappeler quelque chose d'important. Ils ont prié ensemble, et au soir de cette mémorable soirée, cet homme s'est converti. Un deuxième témoignage, qui me touche donc personnellement, je faisais des visites. Tiens, qui m'a dit, j'accepterai bien votre vide, mais je suis très gêné, très embarrassé, parce que je me suis associé avec qui est un athée convaincu. Et je crois fort que si vous laissez dans mon cabinet, à côté des autres revues, n'est-ce pas, que l'on peut consulter, je vais avoir de gros problèmes avec mon collègue. Et il n'a pas accepté. Il y a 2 exemples concrets qui nous montrent que nous devons veiller où nous mettons les pieds. Il y a des situations qu'on ne peut pas. Le premier cas, ce commercial ne pouvait pas éviter ce stage, mais il a su, en son temps, témoigner. Dans le second cas, l'autre s'était mis sous un joug mal assorti avec un incrédule. Non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je le contacterai quand même. D'autant plus qu'il habite dans une ville que tout le monde ici connaît.
Pour encourager, s'il y a des obligations, des contraintes qui sont liées au travail et à la fonction que nous occupons, le chapitre 5 du second livre des Rois nous parle d'un homme, Naaman, qui était un homme puissant, avec de grandes capacités, une grande autorité. Et puis cet homme-là a été amené à être guéri, et il a su que c'était Dieu qui l'avait guéri. Et voilà quelque chose qui a une influence sur lui. Il a eu besoin de ses serviteurs pour l'aider. Vous, chacun pourra lire le récit dans le chapitre 5 du second livre des rois. Et voilà que sa fonction le portait quand même à être avec le roi là où maintenant il réalisait qu'il n'était pas normal pour lui de se trouver. Et il dit, quand ceci l'Éternel pardonne à ton serviteur, quand mon Seigneur entrera, verset 18, dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuiera sur ma main, et que je me prosternerai dans la maison de Rimmon, que l'Éternel, je te prie, pardonne à ton serviteur en ceci, quand je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Et le prophète lui dit, Élisée lui dit, va en paix. Et il s'en alla avec lui un bout de chemin, va en paix. Voilà, il est là, avec une obligation encore, il n'a pas suffisamment d'autorité morale ou de recul pour faire un choix, il est là, il est obligé de se tenir avec le roi, mais dans son cœur, il ne peut plus se tenir là. Sa situation n'est pas satisfaisante, il y a un travail qui se passe en lui. Eh bien, voilà, il doit vivre sa circonstance jusqu'à ce que Dieu le délivre de cette situation et lui donne la liberté de ne plus entrer, de ne plus se trouver pratiquement dans des moments comme ceux-ci.
Alors, quand je n'ai pas été bon dans un témoignage, que j'ai eu un vrai échec, est-ce que c'est tout perdu pour la suite ? Ben, je vois des têtes qui oscillent de droite à gauche, bien sûr, hein. Bien sûr que rien n'est perdu. On peut vraiment repartir avec Dieu. Et je le souligne avec l'exemple de Josaphat qui nous a été rapporté, qui est placé devant nous maintenant. Au chapitre 2 Chroniques 19, quand il entend « Aides-tu aux méchants, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ?» Quelques versets plus loin, verset 4, « Il sortit parmi le peuple et les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. » Josaphat est reparti avec les siens. Pour s'approcher de l'Éternel. Quelquefois dans un échec, ce qui est arrivé à Pierre, hein, une fois que tu seras restauré, fortifie tes frères. Dans un échec, il y a un côté très positif, c'est que quand on ressent le côté cuisant de l'échec, on vient au pied du Seigneur. Et là, on peut vraiment repartir avec lui. Et Josaphat a aidé ses frères après. Et puis, quand l'ennemi est arrivé, c'est au chapitre 20 avec Moab, il est quand même celui qui a dit au verset 20, « Écoutez-moi, Judas, et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. » Et ils ont été victorieux. Alors, bon, quand on est obligé de constater qu'on n'a pas été bon, mettons-nous au pied du Seigneur, et il est là avec puissance pour nous aider dans la suite.
Que dans cette scène, il y a deux détails que l'on peut considérer dans la vie de Josaphat. Alors bien sûr, de manière impulsive, il est vraiment mal parti en disant à Achab, moi je suis avec toi, je suis comme toi. Quand on sait ce qu'est la vie d'Achab, il y a un avertissement très fort pour nous. Et pourtant, Josaphat reste ce qu'il est, même s'il a perdu beaucoup de force dans son témoignage. C'est lui qui quasiment impose à Achab de faire entendre le prophète de l'Éternel. Et Achab, à cause de la demande de Josaphat, va devoir entendre le témoignage, la parole de l'Éternel qui lui est adressée par Michée. Ça, c'est une chose. Voilà, il n'y a là aucun encouragement à s'engager dans un chemin trouble ou avec duplicité dans le monde, mais malgré tout, on peut se souvenir de ça. Et puis l'autre aspect, c'est au verset 28, quand le combat se précise, Josaphat sait garder sa dignité. Il est le roi et il ne se déguisera pas. Il ne se déguisera pas, je pense pas qu'il y ait seulement là la seule invitation d'Achab, mais il reste le roi et il reste digne de ce qu'il est, et il va à la bataille en qualité de roi, sans se cacher. Et Dieu va le délivrer. Peut-être qu'il y a une leçon pour nous, qu'on trouve dans d'autres exemples et dans ceux qu'on lira dans la vie de Daniel, c'est la dignité. Le chrétien, l'enfant de Dieu, est quelqu'un qui a une dignité. Et je crois qu'il est très important de conserver cette dignité. Ce qui fait ma dignité, c'est pas le fait que je veux être un témoin. Ce qui fait cette dignité, c'est de conserver la conscience. Ce qu'a lu Élie dans la vie d'Abraham, c'est « Le Dieu de gloire m'est apparu, j'ai une relation avec Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je vis cette relation. Et c'est ça qui fait que je suis un témoin. C'est pas parce que j'ai décidé d'être un témoin que je peux être un témoin. Ce qui est important, c'est pas le témoin, c'est celui duquel on rend témoignage. » Et ça, il faut peut-être que, voilà, on y pense. Et Dieu, dans ce chemin-là, eh bien, va délivrer Josaphat, et il va donner un témoignage là, parce que Josaphat, il rend le témoignage de quelqu'un qui, dans la détresse, crie à un secours et crie à Dieu. Et Dieu le délivre, et là, il y a un témoignage que Dieu donne contre la volonté, en quelque sorte, de Josaphat. Mais en délivrant celui qui lui appartient, il montre à ceux qui sont là, voilà. Qui est Dieu? Et puis le troisième témoignage, c'est que ce qu'on a lu dans le chapitre 19, c'est que Akab met en prison le prophète de Dieu. Quand il est averti, il refuse violemment cet avertissement, mais Josaphat, qui apprend ses leçons, eh bien il apprend aussi à recevoir l'avertissement. Il apprend à recevoir la discipline que Dieu lui envoie, et on voit nullement qu'il y ait la moindre sanction contre le prophète.
J'aimerais poser une question. Donc tout à l'heure, on a parlé du fait d'avoir honte. Je pense que cette honte est liée à notre peur de la moquerie, des opprobres, certainement, puisque comme disait Gérard tout à l'heure, c'est une société post-chrétienne, donc on évite taxer de has-been. Alors la question est simple, c'est comment avoir moins honte de l'évangile, comment être moins sensible à l'opprobre. J'aimerais lire peut-être un verset qui va nous aider à répondre partiellement à cette question. C'est dans 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 et au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme forains et étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous, comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Alors on voit que dans ce verset que lorsque on garde une pureté morale, sexuelle, pas toujours facile, on a 20 ans, on a 30 ans, on est dans un monde où on se met en ménage dès 14, 15, 16 ans des fois, et voilà un opprobre, voilà quelque chose qui... des moqueries, c'est pas toujours facile à vivre quand on est jeune, et donc il y a des choses dans lesquelles ils médisent de vous. Voilà ce que propose notre Dieu. Pour faire taire les paroles dures contre nous, eh bien, faisons des bonnes œuvres, à cause des bonnes œuvres qu'ils observent. Voilà peut-être une solution. Donc je répète ma question, comment être moins sensible aux moqueries, à l'opprobre de ceux qui nous entourent? Pas très facile. La Josaphat, effectivement, un temps, il a dit « je suis comme toi », il a pas voulu marquer sa différence. Eh bien, comment pour nous? Et j'aimerais aussi en même temps rappeler cette première question qu'on avait lue tout à l'heure. Je montre que je suis témoin comment? En lisant ma Bible en public, en priant à table, en portant une croix autour du cou, en ayant un poisson sur ma voiture. Bon, c'est peut-être plus à destination des jeunes, mais je pense que la réponse peut les intéresser.
en ce qui me concerne, mais d'autres pourront s'exprimer, hein, je n'ai pas trouvé d'autre solution pour accepter les moqueries que de vivre toujours plus près du Seigneur, de lui dire à chaque instant, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur peut t'aider. Je vais vous raconter une histoire vécue, des circonstances assez difficiles, comme il y en a de temps en temps, dans un établissement public de la ville d'ailleurs, un établissement scolaire, suppression de poste. Alors mes collègues font une lettre et puis imposent une manière d'agir à l'inspection académique, à l'inspecteur d'académie, et viennent me voir et me disent, voilà, on signe tous la lettre, tu signes la lettre. Bon, montrez-moi la lettre. Je regarde la lettre. La lettre disait un certain nombre de choses vraies, et à la fin, que vous le vouliez ou non, si vous ne nous donnez pas satisfaction, voilà ce que nous allons faire. Alors je dis, bon, jusque-là je peux signer, parce que tout ça c'est vrai, et je suis d'accord. Mais là, je ne peux pas signer. J'ai appris après que mes collègues avaient décidé de me faire subir un certain nombre de choses. Et il se trouve, voyez comme Dieu fait les choses, qu'il y avait parmi eux un collègue qui venait du pays de Montbéliard, où il avait vécu près de chrétiens, d'une assemblée chrétienne vivante, et il a dit à mes collègues, écoutez, c'est pas la peine, faites-lui subir tout ce que vous voudrez, ça ne changera rien. Si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, si vous pensez qu'il peut vous aider, allez le voir. Là oui, vous aurez une réponse positive, sinon, c'est pas la peine. Et j'avais écrit à mes collègues en leur expliquant pourquoi je ne pouvais pas signer cette lettre. Je leur avais donné quelques références bibliques et je leur ai dit, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on parle ensemble de ces choses, très simplement, paisiblement. Tout s'est arrêté là, j'ai plus entendu parler de rien, et mes collègues ont été sympathiques plus que par le passé. Voilà. Et voyez, le témoignage ici, je pense, pour moi, venait aussi fort de mes frères de la région de Montbéliard que de ce que moi-même j'avais pu prouver. Mais j'avais ma petite part dans le fait de ne pas accepter de compromis et de ne pas aller contre l'autorité, parce que la parole de Dieu nous dit textuellement « Soyez soumis aux autorités ». Donc, voilà. Avec le Seigneur, quand on sent que quelque chose ne va pas et va limiter notre communion avec le Seigneur, lui dire aide-moi, non, je veux que ma communion croisse avec toi, je ne veux pas qu'elle diminue. Et puis, le témoignage d'autres chrétiens peut-être pourra nous aider. Voilà encore des sources d'encouragement et des ressources divines qui se présentent à nous dans la vie de tous les jours.
Brièvement, un autre exemple. Alors, dans l'Écriture, Néhémie chapitre 4, c'est la reconstruction de la muraille de Jérusalem, une muraille qui devait faire au moins 400 mètres de large. Et puis, les gens qui regardent construisent disent, Néhémie 4, verset 3, au reste, « Pour ceux que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait crouler leur muraille de pierre. » C'est clair, hein, comme moquerie. La suite. « Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. » On en parle à Dieu. Et on n'a pas honte de dire à Dieu, « J'ai eu honte, je suis méprisé, c'est pas facile pour moi. » On peut en parler à Dieu. Et le résultat, on l'a, verset 6, fin du paragraphe, « Le peuple avait le cœur au travail. » C'est Dieu lui-même qui encourage en se confiant à lui.
Un verset un peu mystérieux qu'on trouve dans Matthieu 7, verset 6, et qu'on connaît bien. « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent à leurs pieds, ils ne les foulent à leurs pieds, et que se retournant, ils ne vous déchirent. » Si j'ai bien compris, on a dit que le témoignage, ce n'est pas une activité en soi. On est témoin parce qu'on est fidèle à Dieu et que ça se voit. Ce qui me semble, je ne sais pas, je voudrais avoir votre avis, mais on ne peut pas avoir aucune compromission avec le mal. Donc notre marche, elle doit toujours être droite et juste devant Dieu. Mais dans les explications qu'on donne aux gens qui nous entourent, je crois qu'il faut de la sagesse et du discernement. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, et on ne sera pas compris, et ce n'est pas utile de vouloir être compris. Est-ce que ce n'est pas un peu le sens de ce verset ? On n'est aucun compromis avec le mal, on doit chercher toujours ce qui est juste devant Dieu, mais quant à expliquer aux incrédules qui nous entourent ce qu'on fait, il faut de la sagesse, il me semble.
Par exemple, le Seigneur n'a pas répondu à toutes les questions. Ça va tout à fait dans ce sens.
Peut-être une remarque concernant le passage qui a été lu dans la première épître de Pierre. Il est dit de s'abstenir des convoitises charnelles. Il n'est pas dit de s'abstenir de la sexualité. Je m'adresse aux jeunes en particulier à ce sujet-là. C'est difficile, c'est dur pour un jeune lycéen, voire même collégien maintenant, on ose dire presque collégien, aussi bien pour les garçons que pour les filles, peut-être encore plus pour les filles, les jeunes filles, de vivre purement et devant Dieu en s'abstenant de relations. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre de plus en plus, et je voudrais dire simplement que il est dit là de s'abstenir de convoitise. C'est pas la sexualité. La sexualité, elle est voulue par Dieu dans un cadre précis qui est celui du mariage. C'est quelque chose de merveilleux qui est béni, qui est encouragé et béni par Dieu, mais dans un cadre précis. Nous savons très bien à l'heure actuelle que ces enseignements si précieux sont complètement bafoués, que la convoitise, elle apparaît sur les murs de nos villes, par les médias. Il faut savoir que les médias véhiculent des images et qui vont complètement à contre-courant, et c'est l'instrument du diable, on peut dire, pour effacer nos valeurs, les valeurs auxquelles nous tenons le plus. Mais que les jeunes sachent bien que souvent on voit la religion chrétienne au travers de toute une série d'interdits, de refus, de rejet, d'ascétisme, il n'en est rien. Dieu veut, approuve, bénit la sexualité dans un cadre qui est encore une fois bien défini pour le bonheur d'un couple, du couple.
J'ai surtout pas de leçon à donner parce que pendant longtemps, je suis très souvent attaché à éviter de me trouver dans des situations où l'on risque la moquerie. Mais ce qui m'a aidé comme expérience, c'est le verset qu'on a lu dans c'est la méditation et c'est le verset qu'on a lu dans les Romains. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Car c'est une puissance de Dieu. C'est retourner, ça rejoint la différence entre la peur et la honte, c'est retourner l'argument. Ce que j'ai, ce que je connais, celui que je connais, il faut s'arrêter, penser véritablement. Quelle valeur ça a? Et ça remet beaucoup de choses en place. Parce que je ne suis pas témoin d'un certain nombre de croyances. Je ne suis pas témoin d'un... Je suis pas témoin... J'ai un peu de mal avec le fait de montrer sa différence. Je n'ai pas une différence à montrer. J'ai à montrer... Montrer sa différence n'est pas un but en soi. Sinon, on va montrer un mode de vie qui est différent, qui est original, qui est bizarre. Mais celui que je montre, celui dont je suis fier, un Dieu puissant, c'est un Dieu d'amour. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Et puis, autre chose, c'est a eu peur des siens.
Il a eu peur d'estin. Mais là où il retrouve sa dignité et là où il redevient un témoin, avec quand il a une relation personnelle avec le pharaon, même si le pharaon lui dit « va-t'en », c'est quand il a une relation personnelle avec Abimélec, même si Abimélec doit lui dire en relation foule avec un groupe. On est en relation avec un groupe, bien le groupe est toujours entraîné par le plus médiocre, par le plus. Voilà, notre relation et notre témoignage, il sera beaucoup plus facile, direct, et on aura moins peur quand on dans un groupe, rendre son témoignage dans un groupe. J'en ai eu l'occasion avec un groupe de lycéens, eh bien, c'est quasiment impossible. Parce que le groupe entraîne tout le monde, quels que soient les besoins, quelle que soit la situation de chacun.
Juste un dernier verset, c'était le rappel au début du livre de Job. Dieu dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait, droit et craignant Dieu ?» Ce que je veux dire, c'est que le témoignage, ce n'est pas que devant les hommes, c'est devant aussi les anges. Ça veut dire que notre comportement irréprochable, il est témoin aussi devant le ciel. Et donc, on n'a pas à se dire, si on me voit, il faut que je me conduise bien, et si on ne me voit pas, je peux faire différemment.